What do you want? Information.
Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I gonna say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 15 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one.
Whoa, wait.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir en compagnie cette semaine de Marion Olité de Combini. Hello Marion.
Salut Pierre.
De Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Salut Jean-Maxime.
Hello Pierre.
Et de Renan Cros de Cinématiseur. Bonjour Renan.
Salut Pierre.
Netflix vient de sortir le week-end dernier sa nouvelle série 13 Reasons Why, drame autour du suicide d'une adolescente et de comment, comme son titre l'indique, des 13 raisons et autant de personnes à cause desquelles elle aurait mis fin à ses jours. Une plongée dans la face plutôt obscure de la jungle qui sera notre porte d'entrée dans le monde des teen dramas, de l'américaine Angela 15 ans à la française Les Grands, en passant par la norvégienne Scam.
I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended.
If one thing had gone differently somewhere along the line, maybe none of this would have happened.
People were starting to talk. I had to do something.
Whatever Hannah thought she saw, she lied about it.
Maybe I'll never know why you did what you did.
I can make you understand how it felt. If you want to know the truth, just press play.
Commençons donc par l'actualité, chers amis, à la sortie de 13 Reasons Why, 13 raisons pourquoi, je vous fais une traduction littérale, sur Netflix vendredi 31 mars, une série adaptée d'un roman de Jay Asher et produite par Selena Gomez et Tom McCarthy, le metteur en scène de Spotlight notamment, qui réalise aussi les premiers épisodes, une histoire en deux temporalités qui révèle peu à peu les raisons du suicide d'une adolescente dans une petite ville américaine et ses conséquences. Nous sommes critiques, soyons critiques, commençons par donner notre avis général. Marion.
J'ai été particulièrement séduite par les 4 premiers épisodes que j'ai pu voir de 13 Reasons Why. Je trouve que c'est une série qui, à la fois, a évidemment ingurgité les codes des séries pour ados depuis 20 ans que ça existe à peu près, et en même temps, elle a quelque chose d'éminemment moderne sur la forme qui la rend hyper attrayante, mais elle parle aussi de sujets ultra graves, dont on va continuer à parler, je pense, dans le podcast, et de façon pertinente, et peut-être sombre, mais plus réaliste que d'autres séries récentes. Donc voilà, moi je suis assez séduite.
Jean-Maxime.
Alors moi je suis plutôt emballé mais pas totalement satisfait, c'est-à-dire que j'attendais autre chose de la série, peut-être un peu trop. J'espérais un teen drama façon HBO Showtime, ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici. Quelque chose de vraiment exigeant, sombre, très osé, et finalement c'est assez timide je trouve, ça va pas jusqu'au bout, en tout cas dans les 4 premiers qu'on a vus. Et donc c'est pas révolutionnaire en fait, j'attendais ça de la série.
Renaud.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que Netflix est vraiment en train de faire une sorte d'anthologie de séries qui réfléchissent sur les séries elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est un teen drama sur les teen dramas, en fait. Et c'est un peu pour moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ils ont le ZOA de la série pour ados. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une série sur le storytelling des ados sur eux-mêmes, comment on se raconte quand on est ado, comment on est un ado et qu'est-ce que c'est qu'être un ado vis-à-vis du regard des autres. C'est vraiment assez fort, assez bluffant et surtout, ça apporte quelque chose d'une vraie mélancolie, une vraie bizarrerie sur le teen drama qu'il n'y a pas pour moi ailleurs.
Oui, c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec tout le monde finalement, mais parce que je suis à la fois très emballé et en même temps j'ai quelques réserves, notamment sur des histoires de léger manque de rythme ou des choses qui ont fait que j'ai eu du mal à rentrer complètement l'histoire. J'ai eu très peur au début, au début je me dis mais en fait c'est moi j'attendais effectivement comme tu disais Jean-Maxime un truc très sombre, très exigeant et au début ça l'est pas, mais en fait ce qui est très fin je trouve et très intelligent de la série, c'est que elle est comme un ado pense, c'est-à-dire que elle est volontairement parfois trop légère, elle elle est volontairement un peu à côté parce que c'est comme ça que les ados vont penser. Et donc, elle essaye d'adopter le regard de l'adolescent. Et en ça, je trouve que c'est vachement malin et que du coup, il y a ce côté méta-là. Et que au fur et à mesure qu'on comprend les personnages, qui semblent, comme dans beaucoup de teen drama, mais on va en parler aujourd'hui, assez archétypaux au début, on comprend leur intimité, leur complexité de réflexion. Et c'est là que la série commence à prendre de l'épaisseur. Mais vous l'avez très bien rappelé, Marion, Jean-Maxime, à l'heure où on enregistre ce podcast, la presse n'a vu que 4 épisodes. Donc, c'est encore peut-être difficile de se projeter complètement dans l'histoire. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu m'a fait penser que c'était une série qui, comme The OA, même si The OA a vraiment fait débat, et moi, je fais partie de ceux qui étaient un peu tièdes là-dessus, ne se considérera que peut-être dans l'entièreté de sa première saison, en tout cas.
Mais comme The OA, il y a une forme de naïveté, en fait. Et cette naïveté-là, en fait, elle rafraîchit le genre. Et tout d'un coup, elle rappelle que des stéréotypes, en fait, ça dit aussi quelque chose de la société.
Comment on se débrouille, tu le disais Marion, avec ces sujets très difficiles dont souffrent concrètement les jeunes aujourd'hui? Alors, divers harcèlements, dont ce qu'on appelle en anglais le slut-shaming, des attaques sexistes contre la supposée sexualité de tel ou tel personnage féminin en l'occurrence, toute cette violence, le suicide, etc. Comment la série se dépatouille de ces sujets-là qui sont extrêmement complexes? Et puis surtout, on serait tenté d'avoir chaque épisode qui commence par « Chers parents, faites bien attention ». Et puis « Chaque adolescent, regardez-nous bien et attention ». Parce que c'est très dangereux tout ça. Comment s'en débrouille Marion ?
Par rapport au slut-shaming, une série récente pour ados, diffusée aussi sur Netflix, qui s'appelle Riverdale, a abordé ce sujet de manière un petit peu trop optimiste et utopique, où dans un épisode, une nana était victime de slut-shaming, et donc toutes les nanas formaient une alliance féminine et allaient rendre l'appareil aux garçons.
Casser la gueule à des mecs.
Voilà, en perruque quand même et en petite tenue, donc c'était quand même un petit peu limite. Là, au contraire, dans 13 Reasons Why, je trouve que le sujet est plutôt bien traité. Ça peut encore être approfondi, mais en tout cas, on voit à quel point le slut-shaming peut avoir des conséquences. On ne dit pas forcément que c'est la raison pour laquelle elle s'est suicidée, parce que ça, on l'apprendra qu'à la fin de la série. Mais en tout cas, on montre les conséquences derrière. Il n'y a pas une sauveuse ou des gens qui vont venir l'aider, parce que la plupart du temps, en fait, au lycée, c'est ça. Et on vit pendant des années avec des fois des étiquettes qui sont collées sur des jeunes femmes et qui sont ensuite traumatisées pendant toute leur vie d'adulte. Donc ça, je trouve que c'est assez bien rendu dans 13 Reasons Why.
Oui, et la série montre très bien, juste depuis son titre, d'ailleurs, j'allais dire pas de spoiler, mais les gens qui ont lu le bouquin, moi c'est pas mon cas, savent très bien sans doute comment les choses évoluent, que c'est pas, il y a 13 raisons, c'est-à-dire, ou il pourrait y en avoir 42 d'ailleurs. C'est pas juste il s'est passé un truc, c'est comment le système lycéen écrase une personne de son propre fonctionnement. Quoi.
Mais c'est ce qui est très fort dans l'épisode en question sur le slut-shaming, c'est qu'on a l'impression en fait que c'est qu'une étape, ce qui est quand même très violent.
Dans
en fait.
Riverdale.
Dans Reason Why, c'est-à-dire que c'est qu'une étape. Et ce qui est très fort, c'est que la série le traite comme une sorte de rite initiatique tragique, c'est-à-dire que c'est ce qui va ouvrir la descente de cette jeune fille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie conscience aussi que, à la fois, c'est un sujet très grave et en même temps que ce sujet tellement grave, il est vécu au quotidien. Et moi, c'est ce que je trouve très fort dans la série, c'est la quotidienneté. C'est qu'on a l'impression qu'elle raconte son histoire. Il faut expliquer qu'elle raconte son histoire par cassette et que donc on suit les étapes.
Parce que la jeune fille qui s'est suicidée a laissé une boîte avec des cassettes à différentes personnes qui les écoutent les unes après les autres et vont découvrir les uns et les autres ce qu'elle leur reproche finalement.
Et elle fait une sorte d'auto-fiction d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle raconte son histoire et elle oblige les personnages à se souvenir et tout d'un coup elle montre en fait, elle oblige les personnages à se rendre compte de ce qui s'est passé. Et ça c'est vraiment un processus politique, je trouve très fort, de mettre les gens face également à ce qu'ils ont fait, même s'ils en étaient témoins, ils s'en sont pas rendus compte. Et ça c'est vraiment très fort.
Jean-Maxime ?
Oui, c'est ça, c'est pas manichéen, c'est-à-dire que c'est pas l'héroïne versus le reste du monde, du reste du lycée. Tous les points de vue sont montrés, tous les gens qui sont responsables de près ou de loin à cette histoire sont présents et ont leur droit à leur petite cassette, leur petite histoire.
Alors justement, comment, Renan, tu parlais finalement d'un côté méta de la série, comme on dit aujourd'hui à toutes les sauces, comment 13 Reasons Why se débrouille de quelque chose dont on va parler ensuite, qui est les codes du teen drama, qui sont extrêmement lourds. C'est, pas, je pense, un des genres qui est le plus codifié, surtout les personnages qu'on voit apparaître. Comment elle se débrouille avec ces codes-là, qui sont aujourd'hui bien connus du public et qui peuvent peser sur le dos d'une série comme celle-là?
Ce qui est très fort, c'est le concept lui-même. C'est-à-dire que c'est une série sur des ados qui sont déjà presque mélancoliques des ados qu'ils ont été. C'est-à-dire que donc elle raconte ce qui s'est passé, les personnages écoutent avec des cassettes audio, et c'est vraiment, par exemple, il y a un côté vintage qui est très rigolo, c'est qu'elle fait ça sur des cassettes audio, il y a tout un truc autour du passé, et donc ces personnages écoutent l'histoire qu'ils ont vécue, et donc nous on découvre l'histoire avec eux, donc il y a vraiment un dispositif, donc c'est ce qui permet le méta, mais ça formule une nostalgie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces adolescents sont déjà nostalgiques d'une sorte d'âge d'or qui a eu lieu, et ce qui donne à la série une espèce de conscience, et aussi qui parle de l'époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore être un ado? Et la série parle de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on peut encore être un ado? Et la série dit, bah finalement non.
Marion ?
Je suis pas forcément d'accord. La série se pose peut-être la question de savoir si on peut encore être un ado, mais justement, les ados, c'est un passage, un rite initiatique pour l'être humain de tout temps, et ça existe encore aujourd'hui. Alors, on utilise un petit peu le procédé du vintage, on mélange avec un petit peu de cliffhanger et de choses qui m'ont un peu rappelé Pretty Little Liars, mais par-dessus, on voit aussi que qu'il y ait de la technologie ou pas, ça change pas en fait les sentiments de ces adolescents. Les adolescents, ce qu'ils ressentent dans Freaks and Geeks ou dans Angela 15 ans, je trouve qu'ils ressentent aussi, on les voit ressentir la même chose aussi dans Certain Reason Why.
Sauf que dans Certain Reason Why, ils l'analysent et la série les fait analyser. Alors que là où on avait des teen dramas, où on exposait des situations, maintenant on a l'exposition, le commentaire, la discussion sur le commentaire et ainsi de suite.
Parce qu'on est aussi dans une tendance où la plupart des séries, on arrive à une maturité dans la plupart des genres de séries et en fait, beaucoup maintenant se tournent vers le méta comme Westworld, et le genre ado est arrivé à maturité. Maintenant, on cherche des nouvelles façons d'attirer les gens et d'être novateur, mais c'est dur.
J.A. Shore, l'auteur du livre, hein, donc, qui est à la base de cette histoire, revendique son admiration pour My So-Called Life, comme on dit, Angela 15 ans en français. On la sent quand même, cette influence.
Oui.
Comment on la ressent, Jean-Maxime?
On la ressent dans la narration. Moi, ça m'a fait peut-être bizarrement plus penser à Felicity, parce qu'en fait, il y avait ce système dans Felicity, la première série de J.J. Abrams, qui était un peu considérée comme la suite spirituelle d'Angela 15 ans à l'époque.
Ils étaient un peu plus vieux, ils étaient à la fac.
Ils étaient un peu plus vieux, mais il y avait aussi ce système où l'héroïne racontait sa vie à sa meilleure amie qui n'était pas partie avec elle à la fac, sur une cassette. Et donc on retrouve ça et on retrouve aussi la solitude que pouvait avoir l'héroïne, à la fois avec donc l'héroïne morte de Certain Reasons Why, mais aussi Clay, dont on n'a pas vraiment parlé encore, mais qui est le héros cependant. C'est lui qui, c'est avec lui qu'on assiste aux premières cassettes, etc. Et il y a un espèce de, ils sont un peu fantômes dans ce lycée tous. On les voit traverser les couloirs comme dans Angela 15 ans. Ils observent les autres.
Mais justement, Clay, pour moi, c'est Brian Cracco à l'époque d'Angela 15 ans. C'est le mec un petit peu discret, qui était un petit peu amoureux de la girl next door. Et là, sauf que là, il se retrouve acteur. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais a priori, c'est aussi une des raisons pour laquelle Anna s'est suicidée, alors que sur les premiers épisodes qu'on a vus, il a plutôt un crush pour elle.
On comprend très vite que s'il a les cassettes, c'est qu'il est concerné.
Voilà.
Ça, c'est très fort. C'est-à-dire, justement, d'avoir remis ce personnage plutôt externe dans Angela 15 ans, de le mettre au centre et de s'intéresser à lui. Qu'est-ce que c'est que ce type qui, en fait, est à la fois trop gentil, trop mignon, et il est pas intéressant, en fait, pour le teen drama. Et bien, tout d'un coup, il le devient parce que, en fait, il est témoin des choses.
Mon père et moi avons toujours été proches.
Ça va à l'école?
Je commence à aimer Anne Frank.
Ah, elle est dans ta classe?
Non, elle est morte.
Ah, je vois. Oui.
Anne Frank, pas.
D'accord. T'endors pas trop tard.
La triste vérité, c'est que maintenant, ma poitrine est devenue un obstacle entre nous.
La voix de Claire Danes en VF. Dans Angela 15 ans, on en parlait. L'ancêtre du genre en 1994, ou est-ce que je remonte jusqu'à Beverly Hills 4 ans plus tôt, ou est-ce qu'il faut remonter encore plus tôt? Renan.
Moi, je remonterais au cinéma, en fait. Dans les années 50, on voit apparaître les adolescents au cinéma avec des dramas adolescents. La Fureur de Vivre, par exemple, c'est le premier teen drama au cinéma avec James Dean. Et c'est vraiment un genre qui est essentiel dans les années 50, où il y a tous ces films de plage avec des adolescents, où on suit leurs histoires d'amour. Ça va façonner l'imaginaire que sera la série télé ensuite. Et après, il y a une version comique qui est plutôt Happy Days, mais qui est plutôt une forme de sitcom. Et après, il faut attendre effectivement le renouveau dans les années 90.
Et Beverly Hills, qui est peut-être en tout cas le point de départ, même si évidemment on a tendance à dire qu'Angela 15 ans, oui, parce que dans une série comme 13 Reasons Why, on est dans une forme de réalisme qui n'est pas forcément la première qualité de Beverly Hills.
Angela 15 ans, elle s'est construite en fait en opposition à Beverly Hills quelques années plus tôt. On critiquait beaucoup Beverly Hills pour ne pas être réaliste, alors qu'au fond c'était une réalité, mais d'une toute petite partie de la population. Et pourtant elle traitait de sujets très sérieux aussi, très graves. Dans la première saison, il y avait un personnage qui se suicidait. Il y avait le viol de Kelly qui était une grande intrigue, qui était plutôt bien traitée. Donc c'était pas que du soap avec des coucheries.
Alors on parle de drama réaliste et par souci de temps, on ne s'attardera pas trop sur la branche fantastique du genre, mais on ne peut pas ne pas dire un mot de Buffy. Je sais, c'est frustrant, mais on va pas pouvoir y rester 20 ans, qui arrive un peu plus. En 97, on vient de fêter ses 20 ans. C'est une œuvre à part et qui s'inscrit malgré tout dans l'évolution du teen drama réaliste. J'ai mis 32 guillemets à réaliste dont on parle aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas sauter Buffy et aller direct à Dawson. Il faut dire que Buffy fait partie de cette évolution.
Oui, bien sûr, elle fait partie de cette évolution, parce que même si Joss Whedon a utilisé la métaphore du monstre, Buffy, c'est aussi toutes les étapes de l'adolescence, et c'est aussi des problématiques qui ont été soulevées ensuite dans des tonnes de séries ados, quoi. Enfin, on voit la solitude, les envies de suicide à travers un épisode centré sur un des persos secondaires qui s'appelait Jonathan. On voit, on a affaire à pas mal de bons là, comme ça, j'ai pas toutes les problématiques
en tête. La dépression, plein de choses.
Oui, voilà.
J'avance dans l'histoire. Dawson, si j'y mets en 1998, c'est qu'un an après Buffy, et il y a que moi qui pense que c'est une série clé, un sommet d'un sous-genre où les ados parlent comme des philosophes de 45 ans, la frange romanesque du genre, en somme. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander finalement si 13 Reasons Why ils parlaient comme des vrais ados, ou si quand même ils avaient un pied chez Dawson, c'est-à-dire qu'ils font des grandes phrases, ils ont une façon de réfléchir qui est quand même un peu étonnante pour des gamins de 15 ans. Pour moi, Dawson joue ce rôle-là, c'est-à-dire l'hyper-intellectualisation de l'adolescence, quoi.
Dawson mettait des mots sur des difficultés que tous les ados pouvaient rencontrer, de manière très poétique, très romantisée, etc. Mais c'était ce qui faisait son charme et sa différence par rapport à tout ce qui avait été fait avant.
Et on parlait de série méta, mais Dawson était une série méta, justement.
C'était
les émotions des ados qui étaient en train de les analyser alors qu'ils étaient en train de les vivre. Et la première saison est aussi un hommage. C'est le perso principal. Dawson est un grand cinéphile. La première saison de Dawson est un petit bijou. Chaque épisode peut être un film, en fait. Enfin,
Oui, c'était des ados qui, en permanence, se questionnaient par rapport aux fictions qu'ils avaient vues, par rapport aux films. Ils rejouaient le fameux triangle amoureux, qui a construit la série, mais qui était, en fait, qu'ils avaient vécu dans les films, et ils se questionnaient par rapport à leur vie.
Et même à leur évolution, hein, c'était, oui. Bon alors, Dawson, puisque t'es un ado, normalement, si on suit bien les codes, tu devrais avoir tel problème qui va t'arriver. Enfin voilà, il y avait ce côté-là. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore obsédé par cette lecture des séries par elle-même, qui aujourd'hui est un des sujets favoris.
C'est une grande série méta, Dawson. Oui, peut-être la première série méta adolescente.
C'est quand même écrit par Kevin Williamson, qui était l'un des scénaristes de Scream, mais qui était déjà la génération méta des ados qui se regardaient être des ados.
Alors un an plus tard, tout ça est très serré, déboule une série moins connue, mais essentiel, surtout si on revient à 13 Reasons Why, Freaks and Geeks. Si on était dans l'ADN du teen drama, on serait où, et ça aurait quelle importance, cette série de Judd Apatow? Là, encore une fois, c'est vrai qu'il y a des références très claires dans... Je crois même qu'elle est citée concrètement dans 13 Reasons Why, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Freaks and Geeks, je suis jamais sûr si c'est une comédie ou si c'est un drama. C'est ce qui a d'ailleurs, à mon avis, la singularité de la série. Je crois aussi que c'est une série pour les ados, enfin sur les ados, qui est fait par quelqu'un qui s'adresse en fait plus aux ados. J'ai l'impression que Freaks and Geeks, c'est une série pour les adultes, enfin ceux qui viennent de le devenir, qui regardent leur adolescence en arrière. C'est une série nostalgique. Si tu cherches en fait l'ADN de cette série, c'est que c'est une série nostalgique. Alors que les séries dont on a parlé juste avant, elles étaient pas du tout nostalgiques, elles étaient en plein dedans. Donc cette nostalgie de l'adolescence, qui est en fait un truc improbable, parce qu'en fait on n'est pas vraiment nostalgique de son adolescence, on la fantasme, oui. Mais en fait quand on y est, on trouve ça insupportable, et donc il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a créé une sorte de mythologie de l'adolescence, aussi avec les films de John Hughes, les Breakfast Club, les Ferris Bueller, qui ont créé cette adolescence-là rêvée.
Un mot sur Dawson, quelqu'un d'autre?
Moi sur Freaks and Geeks.
Parce pardon, sur Freaks and Geeks, je suis resté coincé à Dawson, c'est comme ça.
Ok. Non, sur Freaks and Geeks aussi, un peu comme Skins, le truc aussi, c'est qu'elle s'intéresse à une frange particulière des adolescents. Là, c'est les ados qui fument un peu des joints, qui sont déjà hyper cyniques au moment où ils sont en train de vivre leur adolescence. Et en même temps, il y a des moments où ils font un peu n'importe quoi, comme tous les ados, où le mec il va se faire des pointes punk, où la nana tout d'un coup elle va tester une drogue, ou des choses, enfin ils vont se rendre ridicules aussi. Donc c'est ça qui est mignon dans le Freaks and Geeks, mais c'est Apatow qui regarde son adolescence, hein, Freaks and Geeks, et c'est une série qui est presque cool, en fait c'est le côté cool de l'adolescence, Freaks and Geeks.
Allez, une dernière pour finir ce tour d'horizon. Skins, l'anglaise, qui date, elle, de 2007. Hein, j'ai fait un bond dans le futur. Le chaînon manquant, finalement, depuis Angela, finalement, une ambition proche, mais conçue d'une façon radicalement différente, celle de montrer la vérité de l'adolescente, de l'adolescence. Moi, c'est mon point de vue, c'est que Skins, l'adolescence de Skins ne ressemble vraiment rien à la mienne, mais que dans ce qui est dit de l'esprit de l'adolescence, j'ai trouvé aucune série qui était aussi juste de Skins. C'est-à-dire qu'au fond, ce que ces personnages ressentent, je me suis complètement identifié à ce qu'ils ressentent, alors qu'encore une fois, j'étais à des années-lumière d'avoir l'adolescence relativement dépravée qui est la leur.
C'est une des rares séries ados qui a été coécrite par des ados aussi. Il y avait vraiment des ados qui participaient au scénario. Je crois pas que les Américains l'aient fait, et ça se ressentait énormément dans l'écriture des personnages. Et le fait de se plonger dans l'univers d'un seul personnage à chaque épisode, ça permettait vraiment d'y aller à fond, de tout explorer, notamment la sexualité, parce que dans les séries américaines, c'est un sujet qui est toujours exploré, mais jamais vraiment montré. Là, c'est vraiment montré, c'est vraiment dit, et c'est vraiment ce qui la différencie de tout ce qui a été fait avant.
Renan ?
Ouais, je crois que moi, c'est la première série ado où je me suis senti vieux devant, en la regardant. C'est que tout d'un coup, je me disais, ok, donc en fait, je ne comprends pas ces gens-là.
C'était 10 ans après Buffy, donc c'est logique, mais.
Ouais, enfin, j'étais même, ouais, c'était vraiment une série, et je crois que c'est d'ailleurs une série qui ne parle pas aux adultes, j'ai l'impression. C'est vraiment une série des ados pour les ados. Tu disais que ça avait été écrit pour les ados. Je crois que c'est un langage, c'est une manière de créer un récit qui parle à une génération. Et je suis même pas sûr que la génération d'aujourd'hui soit la même que celle de Skins.
C'est une des raisons pour lesquelles Skins a fait des générations, finalement.
Oui, exactement. Hein.
C'était deux saisons et hop, je renouvelle et hop, je renouvelle. Mais on va justement parler de ce que tu viens de soulever là, Renan, juste après une petite leçon de Joey Potter.
Excuse-moi, Dawson, mais l'amour ne vient pas en regardant des films vidéo.
Ça, c'est ce que tu crois.
Il ne vient pas au coucher du soleil sur les plages désertes, Dawson. Le cinéma, c'est pas la réalité. Les acteurs font semblant de s'embrasser, ils font 20 prises. Le gars est homo, la fille s'ennuie, c'est de la propagande sur pellicule.
Voilà, merci Joey. Aujourd'hui, on dit que les ados ne regardent plus la télé. Est-ce que les séries ados seraient donc regardées par des adultes? Tu as commencé à soulever la question. Ou est-ce que c'est pas vrai? En fait, il y a un public et les séries ados... Je voulais soulever la différence entre... Il y a des gens qui disent « Ouais, c'est une série pour ados ». Est-ce que c'est une série pour ados ou est-ce que c'est une série avec des ados? Nuance.
Par exemple, Marion citait Riverdale tout à l'heure. J'ai l'impression que Riverdale, c'est pas du tout une série pour les ados, c'est une série pour les adultes qui fantasment l'adolescence et qui fantasment une adolescence à travers le prisme de la culture pop qu'ils ont. Parce que quand on regarde Riverdale, en fait, c'est un mash-up de films noirs, de Twin Peaks, de plein de choses. Je suis pas sûr que les adolescents, ils aient la grille de lecture. Sauf que le génie de la série pour moi, c'est qu'elle a réussi à mélanger à la fois les éléments de teen soap trash façon Pretty Little Liars, complètement excessif, et en même temps une suresthétisation du méta. Alors on est vraiment là-dedans, on est dans un genre qui se regarde être, et tout d'un coup bah ça fait qu'il y a les deux publics en même temps. Je suis pas vraiment sûr par contre qu'il y a des séries pour ados sur les ados qui quand je dis ados, c'est la tranche jusqu'à 17 ans. Déjà pour moi à 17 ans, on est limite plus ado. Je suis pas sûr qu'il y ait des séries artistiquement qui nous intéressent beaucoup.
Marion, on a beaucoup parlé de Scam, hein, la série norvégienne récemment, qui je crois peut-être répond à cette problématique là, c'est-à-dire que pour le coup elle est vraiment faite pour les ados.
Oui, mais c'est un petit peu comme les Feskins en fait. Moi je pense qu'il y a un public d'adolescents qui a envie de regarder des séries pour adolescents. Moi, quand j'étais adolescente, je regardais des séries sur des adolescents. Donc, je vois pas pourquoi il y en aurait plus maintenant. Il y en a, simplement, ils se reconnaissent pas forcément. On a, dans le genre de la série adolescente, du teenage drama, on a des choses très différentes. On a du soap à la Pretty Little Liars maintenant, avec des choses ultra, enfin, pas du tout réalistes. On a des choses qui sont beaucoup plus réalistes. On a des choses dans lesquelles les adolescents peuvent encore se retrouver aujourd'hui, et tant mieux. Je pense qu'il y a une nouvelle vague en plus, parce que là, pendant quelques années, je trouvais qu'on végétait un peu. À mon avis, Vampire Diaries et compagnie, ils ont un peu tué le game des séries ados.
En
rajoutant du fantastique.
C'est Twilight, on va accuser le cinéma, on va dire que c'est Twilight.
Oui, voilà, mais du coup, ils ont retiré tout le propos. Pourquoi pas faire des séries fantastiques sur l'adolescence? Buffy a prouvé que ça pouvait être une excellente idée. Le problème, c'est que toutes ces dernières séries, Teen Wolf, Vampire Diaries et compagnie, en fait, elles ont retiré tout ce qui faisait la richesse des séries pour ados. Et du coup, ça a un petit peu tué le game du truc pendant quelques années. Et là, j'ai l'impression que ces derniers mois, cette année, et même, je pense pas que ce soit un hasard si Netflix tout d'un coup s'intéresse aussi aux séries ados alors qu'elle en faisait pas du tout avant.
Renan.
En fait, je crois que ça tient dans un terme. Le terme, on a inventé un terme qui s'appelle young adult. On parle plus de teenage book, on parle de young adult movie, jeune adulte. Ça veut dire que il y aurait le teenager d'un côté et le young adulte de l'autre. Ça veut dire que Twilight.
Parce que le teenager, il y a Violetta. Hein. Enfin.
C'est-à-dire, il faut savoir de quoi on parle. Et le young adult, cette notion de young adult, qui est quand même une notion improbable, en fait, de jeune adulte, elle a remplacé en fait le teenager. Alors, est-ce que Pretty Little Liars, est-ce que 13 Reasons Why, ça s'adresse au teenager? Est-ce que c'est Violetta? Est-ce que c'est l'adolescence telle que nous en France on la considère? C'est-à-dire 12, 13, 14, 15, 16 ans, ou est-ce que c'est justement le young adulte qui est plutôt 17, 25 ans? C'est vraiment ces questions-là, et ça change en fait la perception, parce que le young adulte se permet plus de choses. La violence des films young adultes, elles ne sont pas possibles dans les séries teenagers.
Je pense pas que les ados qui ont 14, 15 ou 16 ans regardent tous Violetta comme un seul homme, en fait.
Je pense qu'ils regardent Game of Thrones.
Oui, voilà.
C'est ça, enfin.
Je pense quand même qu'ils sont aussi en demande de voir des séries sur ce qu'ils sont en train de vivre et qu'en fait ça peut les faire réfléchir. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu mon adolescence aussi et je pense que ça peut exister encore de nous.
Mais tu l'as vécu par le genre grâce à Buffy qui décloisonnait.
Il y avait pas que Buffy, il y avait Dawson aussi.
Mais qui réfléchissait en termes de méta.
Mais c'était une série sur les ados, Dawson.
Mais qui n'était pas si réaliste que ça. La question, c'est que le réalisme.
L'émotion était réaliste.
Oui, c'est comme disait Joey, exactement. Mais il y a quand même un Skins a en fait ouvert une porte. Et après Skins, qu'est-ce qu'on peut faire pour être réaliste? C'est la question qu'on peut se poser.
Je termine sur une question douloureuse. On a soigneusement évité la France jusqu'ici, mais on va pas l'éviter plus que ça. Où en est-on? On a rarement eu aussi peu de dramado, non, à la télé française. Hein, il y a eu Les Grands sur OCS à l'automne, on peut en dire un mot. On a connu une époque plus généreuse, non, à l'époque de KD2A, je m'en rappelle. Et soyons fous, qualitativement, c'était pas ça du tout, mais l'époque d'AB Productions, eh ben, on nous montrait des Jones dans des séries. Est-ce que on a carrément lâché les ados et c'est fini, quoi? Il y a plus de place pour les ados à la télé française?
Bah, dans AP Productions, déjà, il n'y avait pas vraiment d'ados. C'était pas sûr des ados.
C'était des étudiants, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. C'était des étudiants ou des adultes. Les filles d'à côté, c'était même des cougars avant l'heure. Non, moi, j'en retiens une, en fait, qui m'a vachement marqué, mais qui est très peu connue. C'est La Vie Devant Nous, qui était passée sur TF1 un petit peu. Elle a pas marché. Elle est passée ensuite sur TF6, La Petite Sœur du Câble, et ça passait en boucle sur cette chaîne. Et c'était une vraie réussite, pour le coup, assez réaliste, avec des bons dialogues, des bons acteurs, une bonne alchimie entre eux et des vrais sujets. Comme on en traite finalement peu la télévision française.
Renan ?
Ouais, il y a eu toute une génération de tentatives de faire des séries générationnelles. Je pense à une série qui s'appelait Seconde B ou Ma Terminale, qui était une manière de capter une époque. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas non plus une histoire du cinéma adolescent. C'est les sous-doués chez nous, et c'est même pas des adolescents. C'est-à-dire que on a du mal aussi à s'emparer, contrairement aux Américains, parce que les Américains, ils ont une mythologie de l'adolescence. Chez nous, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et quand on fait ça, on singe des séries américaines.
On a essayé de faire du Dawson avec Cœur Océan. Hein. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai en tout cas. C'était le même genre d'esprit.
C'est d'une violence que tu dis de comparer Dawson à Cœur Océan.
Je suis désolé, mais c'était l'ambition. J'ai l'impression que c'était ça. C'était finalement de faire des amourettes au bord de l'eau avec des grosses prises de tête en permanence, quoi. Ce qui est Dawson au fond, mais bien fait, évidemment.
Mais est-ce qu'il y a une adolescence, un mythe adolescent à la française, comme il y a un mythe adolescent américain? Je suis pas si sûr que ça.
J'ai mis Les Grands sur la table. On le retire tout de suite ou c'est quand même intéressant comme tentative?
Moi, je trouve que c'est une des meilleures séries sur l'adolescence de ces dernières années qu'on a pu voir en France. Hein. Non, Les Grands, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez à la fois, c'est beaucoup plus léger qu'un Skins, mais c'est quand même assez réaliste, on va
mélancolique
dire. C'est
aussi.
Assez mélancolique et poétique, et du coup ça saisit quand même quelque chose de l'adolescence à la française, moi que j'ai beaucoup aimé, même si il y a quelques imperfections et qu'il s'embarque dans certains arcs narratifs complètement superflus, mais j'ai quand même très envie de voir la saison 2, et vraiment non, c'est une réussite par rapport à tout ce qu'on a eu avant. Les Grands, c'est vraiment une réussite.
I say this world extends way beyond this little field of dreams we're dancing in, and I want to see that world.
What's he on about?
He's quoting Chris, it's a literary reference.
Yeah, like we like Shakespeare and shit.
Dawson's Creek.
Whatever, I don't know what that is, but if you guys want to waste your life watching television...
No, you don't watch television, Chris.
No, I don't watch television, right? You brain deads. Can you not think of anything better to do to entertain yourselves with?
Like
pills.
Après ce petit extrait du pilote de Skins où l'on cite Dawson, on a beaucoup parlé de méta, on y était déjà avec Skins. Laissons la parole au public de Un Épisode et J'Arrête. Vous êtes une ado et vous trouvez qu'on n'a rien compris et qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on est une bande de vieux. Vous pensez que le genre est mort et que c'était mieux dans les années 90. C'est à vous de jouer. Bonjour.
Bonjour. C'est pas vraiment une question, mais dans toutes les séries que vous avez citées, il y en a une, je crois que vous avez oublié, et moi qui m'a vachement marqué, parce que j'étais ado à ce moment-là, c'est Les Années Collège. En fait, c'est une série pour moi. Moi, je l'ai suivie.
Qui existe toujours, hein, en plus. Hein. Ça dure depuis les années 80.
La version des 90, pas la version Gamin Bidu Chouette, là.
Canadienne.
Mais cette série, pour moi, je l'ai suivie pendant mon adolescence et parallèlement à Beverly Hills. Le contraste est tellement hallucinant parce qu'on s'identifiait au personnage des Années Collège, qui est d'ailleurs une série canadienne. Et qui était vraiment presque du cinéma.
Qui est cité dans Les Grands d'ailleurs. Il y a un des personnages qui ressemble à un des personnages. Enfin bref, il y a des fringues,
voilà,
et des références.
Pour moi, c'est de la série vérité. Alors que parallèlement, on avait Beverly Hills où on s'identifie pas du tout parce que voilà, c'était vraiment américain, bling, etc. Mais là, c'est vrai que vous avez fait le tour des séries et celle-là, vous l'avez oubliée. Alors pour moi, elle est vraiment.
C'est juste.
Elle est marquante parce que c'est une série qui a touché tous les sujets possibles et c'était tellement bien joué par vraiment des vrais adolescents. Et au-delà, enfin pour moi, Skins, je trouve que c'est de la surenchère parce que c'est vraiment voilà, on veut faire, c'est du tape à l'œil. Mais pour moi, vraiment, la série Vérité, c'est vraiment les années collège. Et c'est pour ça que je voulais intervenir parce que je lui dis, vous avez passé sur celle-là, alors qu'est pour moi.
Grâce à vous, on va pas le faire. Un mot sur. J'avoue ne pas l'avoir suivie. Voilà, elle fait pas partie de mon corpus personnel. C'est une erreur professionnelle. Moi, je glisse juste un mot là, mais je vous laisse dire un mot sur les années collège. On n'a pas parlé d'Hartley non plus, qui a joué un rôle clé dans mon existence.
Tu veux nous en parler, Pierre.
Voilà, c'est parti. Non, je vous en parlerai pas. C'est trop intime. Mais les années, est-ce que autour de la table, pourquoi on n'a pas parlé des années collège?
C'est peut-être question de génération. Hein. Moi, c'est pareil. Les séries ados, en général, on commence à les regarder quand nous-mêmes on est ados. Et du coup, nous,
on fait partie de la fin d'adolescence.
Mais en tout
cas, si on se rappelle de la date de Dawson et qu'on regarde ma date de naissance, on rend compte que j'étais un peu trop vieux pour cette connerie.
Ça, c'est ton histoire, Pierre. Ouais, c'est pas celle de tout le monde.
Oui, enfin bon, voilà. Buffy, il y en a pas mal autour de cette table qui avait déjà, qui n'avait pas 12 ans quand c'est sorti, 97. Si, je suis plus vieux que vous. C'est bon, on va pas s'attarder. Les années collège, donc.
C'était une série très importante. Vous avez raison de la citer. Elle a été diffusée. Je sais pas comment elle a été diffusée en France. Je suis pas sûr qu'elle
était mal certainement.
Ouais, il me semble. C'est marrant, c'est que vous dites série vérité. Il y a vraiment cette idée que pour traiter l'adolescence, il y a d'un côté les séries qui la fantasment et d'autres séries qui la représentent. C'est marrant, c'est que Beverly Hills, effectivement, quand on le regarde aujourd'hui, on trouve ça presque drôle. Je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'à l'époque, on avait une perception peut-être plus réaliste de ce qu'elle était. Ça participe aussi de ça. Moi, j'ai l'impression les séries d'ados, c'est qu'elles fantasment. On a besoin aussi de fantasmer un peu l'adolescence. Encore une fois. Enfin, il y avait un film génial de Todd Solondz qui s'appelait Bienvenue dans la Jungle, qui montrait l'adolescence dans ce cas-là de plus terrible et de plus horrible. Il y a peu de séries qui ont réussi à faire ça, de montrer. Il y a les films de Riyad Sattouf, Les Beaux Gosses. On aimerait bien que Sattouf, par exemple, fasse ça en série, d'avoir une vision comme ça cruelle de l'adolescence. On n'en a pas vraiment encore aujourd'hui.
Et c'est vrai que les années collège, alors encore une fois, je ne l'ai pas suivi, mais j'ai pu lire des choses et tout. C'est que je crois, sans dire de bêtises, c'est une série qui allait quand même. Qui a dû traiter de tous les sujets les plus graves de l'adolescence et qui a eu aussi, je crois, alors là, vous allez peut-être pouvoir me corriger, assez tôt, un personnage transgenre, si je ne dis pas de bêtises, parmi les membres du casting, joué par un acteur, je ne sais plus si c'était une transgenre, un transgenre, faudra que je vérifie, mais en tout cas, qui a été assez novateur et assez avant-gardiste sur ce qui est mise en scène des minorités, etc., dans son récit.
Moi, ça m'a marqué parce qu'elle touchait vraiment tous les sujets, vraiment comme la différence, l'homosexualité, le harcèlement, le passage du collège au lycée, etc. Enfin, ça a touché, c'est ça qui m'a marqué en fait dans cette série, parce qu'elle a touché vraiment tous les sujets. Et effectivement, après, quand on prend tout ce qui est Dawson, je trouve que c'était plus. C'est plus romancé.
Il y a eu des sujets graves dans Dawson quand même, hein. mais de façon romancée, mais il y en a eu.
Alors après, c'est peut-être une question peut-être d'esthétique, de mise en scène. Mais alors après voilà, c'est pour moi j'appelle ça série vérité parce que bon voilà, ça se passe pas ça se passe vraiment dans un collège et c'est vraiment. Enfin, je sais pas, c'est peut-être au niveau de l'esthétique, je pense.
En tout cas, merci d'avoir ajouté les années collège à notre liste. Évidemment, on en a oublié plein. Vous pouvez toujours nous le faire remarquer en commentaire de ce podcast. La liste est beaucoup plus longue, il a fallu en choisir quelques-unes, mais c'est vrai que celle-là est importante dans l'histoire, d'autant qu'elle date des années 80, donc elle remonte avant ce qu'on a mis comme date de départ. Peut-être qu'il y a eu un oubli parce que c'est canadien et qu'on a été vraiment arrosé de séries américaines et que du coup, on s'est moins concentré sur celle-là. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir rappelé. Et on terminera là-dessus ce 15e épisode d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle que 13 Reasons Why est à voir sur Netflix et qu'on vous la recommande. Merci à Marion Olité de Combini, à Renan Croix de Cinématiseur et à Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Merci aussi à l'équipe de Binge Audio et en particulier à Jules Croix à la technique. Merci enfin au public de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous. L'Association Française des Critiques de Séries est sur Facebook et Twitter, tout comme Un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker et tout ce qui va avec, on adore ça. La semaine prochaine, ce sera presque la présidentielle, on sera en plein débat et tout ce qui va avec. Et donc, je vous le rappelle d'ailleurs, c'est le 23 avril et le 7 mai, si vous n'étiez pas au courant, il sera temps d'aller voter. Du coup, on parlera de politique et de comment nos séries et les séries en général peuvent s'impliquer dans le débat, les françaises évidemment, mais pas seulement. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.